Imaginons un instant la scène. On est dans les rues poussiéreuses et bondées de la Jérusalem antique.
Ouais, avec tout le bruit, la foule, les marchands.
C'est ça, au milieu des pèlerins et des soldats romains, il y a cet homme qui avance avec une démarche vraiment étrange.
Une démarche un peu chaotique, non?
Exactement. Il porte de longs vêtements super somptueux, mais son visage est complètement couvert de contusions fraîches. Son nez saigne et son front arbore une vilaine bosse.
Ah oui, je vois très bien de qui on parle.
Et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, la raison est folle. C'est parce qu'il marche littéralement les yeux fermés. Il s'écrase délibérément le visage contre les murs de pierre de la ville.
Juste pour s'assurer de ne jamais poser accidentellement le regard sur une femme. C'est quand même extrême.
C'est complètement extrême. Mais le plus fascinant dans cette histoire, c'est qu'une grande partie des spectateurs de l'époque ne le considèrent pas du tout comme un fou dangereux. Pour eux, c'est le summum absolu de la sainteté.
Et cette image du fameux pharisien meurtri ou pharisien en sang, elle est issue directement de la propre tradition rabbinique ancienne.
Donc c'est pas une invention, quoi.
Non, pas du tout. Et ça illustre parfaitement à quel point la quête de la pureté morale peut muter en une performance théâtrale complètement absurde.
Ouais, une vraie mise en scène.
C'est exactement le cœur du dossier colossal qu'on a sur la table aujourd'hui. En analysant les recherches approfondies du docteur Craig Kinner sur les chapitres 23 et 24 de l'évangile de Matthieu, on fait bien plus que dépoussiérer de vieux parchemins, en fait.
On plonge vraiment dans la psychologie humaine, là.
Voilà. On dissèque l'une des critiques les plus féroces jamais prononcées sur la psychologie du pouvoir, la corruption des élites et ce danger d'une morale qui se soucie beaucoup plus des apparences que de l'intégrité réelle.
C'est clair. Et en voyant toutes les cartes de la Judée du 1er siècle et les reproductions de manuscrits qui tapissent notre studio, on pourrait croire qu'on va juste faire une leçon d'archéologie un peu classique.
Ce qui serait déjà bien, mais c'est pas le but ici.
Non, parce que la confrontation décrite dans ces sources entre Jésus et l'établissement religieux, elle résonne avec une force inouïe pour quiconque s'intéresse aux dynamiques de pouvoir moderne.
Complètement, c'est hyper actuel.
Mais avant d'aborder la violence des mots qui sont échangés parce que ça va loin, il faut comprendre le rapport de force. Les notes de notre source mettent en lumière un chiffre vraiment stupéfiant. Les pharisiens, ils n'étaient qu'environ 6000 dans toute la région de la Judéo et de la Galilée.
Ce qui est minuscule.
Mais oui, Piouf, sur une population de plusieurs millions d'habitants, ça représente à peine une fraction de pourcent, en fait.
C'est ça. Et d'ailleurs, l'historien Flavius Joseph, qui écrivait au 1er siècle, confirme ce chiffre, mais il ajoute une nuance qui est fondamentale pour comprendre le mécanisme de leur pouvoir.
Vas-y, je t'écoute.
Bien qu'ils fussent numériquement minuscules, les pharisiens n'étaient pas du tout isolés dans une tour d'ivoire intellectuelle. C'était très différent de l'aristocratie des prêtres, les sabbucéens par exemple.
Ah oui, eux c'était plus les politiciens de haut vol, non?
Exactement. Les pharisiens, eux, c'était vraiment une force populiste. Ils vivaient parmi le peuple, ils enseignaient dans les synagogues locales.
Au contact des gens, tous les jours, quoi.
Voilà. Et ils avaient réussi à convaincre la population que leur interprétation extrêmement stricte de la loi était la seule voie légitime. Donc leur pouvoir ne venait pas d'une armée, il venait de l'opinion publique.
C'est dingue. Ils possédaient un monopole quasi total sur la culture religieuse du quotidien.
Absolument. Et c'est ce qui explique pourquoi la tentation de transformer cette influence en un vrai culte de la personnalité était si forte. Nos sources décrivent une course hallucinante au symbole de statut.
Bon, décortiquons un peu ça parce que c'est fascinant. Par exemple, lors des rassemblements à la synagogue, on apprend qu'il y avait ce qu'on appelait la Béma.
Ouais, la plateforme surélevée.
C'est ça, une plateforme avec des sièges d'honneur. S'y asseoir, c'était la garantie d'être vu par toute la communauté. C'est le carré VIP de la synagogue, en fait.
Totalement le carré VIP. Et ça n'allait pas s'arrêter là. Ils allaient jusqu'à modifier leur garde-robe pour être sûrs d'être remarqués.
Ah oui, l'histoire des phylactères.
Voilà. Ils élargissaient ces petites boîtes en cuir, les phylactères, qui contenaient des textes sacrés et qu'on portait sur le front et le bras gauche. Et ils allongeaient démesurément les tzitzit.
Les fameuses franges rituelles sur leur manteau.
Exactement. En fait, chaque millimètre de tissu en plus, c'était une façon de crier au monde entier « Regardez ma dévotion, regardez comme je suis saint ».
C'est le virtuel signaling de l'Antiquité, en fait. Comme afficher sa moralité sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour avoir des likes.
C'est une excellente comparaison. C'est exactement la même dynamique psychologique. Et cette dévotion ostentatoire s'accompagnait d'une exigence absolue de déférence verbale.
C'est-à-dire ?
Ils réclamaient des titres spécifiques quand ils étaient dans l'espace public. Par exemple, le terme « rabbi », qui commençait tout juste à être utilisé comme titre honorifique formel à l'époque, ça signifie littéralement « mon grand » ou « mon maître ».
Ah, ça pose le niveau direct.
Ouais. Réclamer d'être appelé « père » ou « maître » sur la place du marché, c'était imposer une hiérarchie sociale super rigide. C'était revendiquer une succession spirituelle directe, ce que les textes de nos sources appellent « s'asseoir dans la chair de Moïse ».
D'accord. Mais attends, je dois poser une question qui me taraude là. Si par exemple, je passe 10 ans de ma vie à étudier la médecine ou le droit, c'est normal, et même plutôt utile, que la société me reconnaisse un titre, non?
Bien sûr, ça valide tes compétences.
Voilà, ça garantit une certaine autorité, ça crée de la confiance. Est-ce que Jésus critique le fait même d'avoir une autorité structurée? Parce que vouloir être respecté pour son savoir, ou en tant que leader, ça ne semble pas fondamentalement mauvais en soi. Pas au point de mériter une telle foudre.
La subtilité est précisément là. Et les sources qu'on étudie aujourd'hui insistent bien sur le fait que la critique ne porte pas du tout sur l'existence de l'autorité.
Ah, d'accord.
Le texte dit d'ailleurs explicitement à la foule d'écouter et de faire ce qui est enseigné depuis cette fameuse chaire de Moïse. Le vrai problème systémique, c'est le gouffre abyssal entre ce qu'ils exigent des autres et leurs propres actions.
Faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi.
C'est exactement ça. Dans la vision éthique présentée ici, le rôle de l'autorité, ça doit être de servir de tuteur, de faciliter la vie morale de la communauté.
D'accompagner les gens.
Ouais. Mais au lieu de ça, ces dirigeants, ils emballaient des règles hyper complexes en ce que le texte appelle des fardeaux pesants. Ils attachaient ça sur les épaules des gens du commun sans jamais lever le petit doigt pour les aider à les porter.
C'est l'anti-leadership par excellence.
Complètement. Le leadership n'était plus un service, c'était devenu un simple outil d'oppression psychologique, juste pour nourrir l'ego de l'élite.
Et j'imagine que quand une élite est à ce point obsédée par son image publique, cette espèce de myopie s'infiltre dans l'application des règles au quotidien.
Oh que oui, ça devient du micromanagement moral.
C'est ça, on abandonne totalement le bon sens pour plonger dans une obsession des détails. Et l'exemple fourni par l'analyse sur la dîme est juste stupéfiant de précision.
Ah, l'histoire de la menthe et du cumin.
Oui, on parle de leader qui s'assurait de prélever exactement 10. C'est absurde.
Mais pour bien saisir la folie de la situation, il faut se replonger dans le contexte économique de la Judée. La loi originale exigeait une dîme, mais sur les produits majeurs.
Les trucs qui faisaient tourner l'économie, genre le blé.
Voilà, le blé, le vin, l'huile. Ce qui soutenait le sacerdoce. Mais l'obsession de la pureté avait poussé certaines factions, comme la très stricte école rabbinique de Shammai, à débattre avec le plus grand sérieux de la nécessité de taxer des graines d'assaisonnement minuscules.
C'est comme déclarer le basilic de son balcon aux impôts, quoi.
C'est ça. Et le niveau de surveillance mutuelle pour s'assurer que ton voisin avait bien donné 1/10 de son plan de cumin, ça créait un climat d'anxiété religieuse qui était juste irrespirable.
Ce qui amène, je trouve, l'une des punchlines antiques les plus brillantes que j'ai jamais lues. Pour se moquer de cette fixation sur l'infiniment petit, Jésus utilise un jeu de mots en araméen, la langue du peuple.
Ah oui, le fameux kalma et gamla.
Exactement. Il oppose le kalma, qui est le moucheron, au gamla, qui est le chameau. L'image dépeint un religieux tellement terrorisé à l'idée d'être impur qu'il filtre méticuleusement sa boisson à travers un tissu pour ne pas avaler un malheureux moucheron mort.
Et c'est pas une exagération, hein. Selon le Lévitique, le contact avec un insecte mort rendait vraiment impur.
Donc il filtrait vraiment l'euro ?
Oui. Les débats juridiques de l'époque tentaient de définir la taille exacte de l'insecte pour que la règle s'applique. Certains rabbins disaient que ce qui était plus petit qu'une lentille ne comptait pas. Mais les puristes, eux, y filtraient tout, juste par peur de la moindre contamination accidentelle.
Et le sarcasme atteint son apogée où, quand l'orateur conclut l'image, il leur dit « Vous filtrez le moucheron, mais vous avalez le chameau, le gamla ». Et le chameau, c'est pas juste massif, c'est l'animal impur par excellence dans la région, avec ses sabots non fendus.
C'est une image tellement forte.
C'est génial, ouais.
Pour notre public, imaginez un grand patron d'entreprise qui paralyse une fusion internationale pendant des semaines à cause d'une petite faute de frappe sur la page 42 d'une annexe. Et pendant ce temps-là, ses associés viennent de siphonner toute la trésorerie vers des comptes offshore. C'est exactement ça, une perte totale du sens des réalités. Et ce qui est fascinant ici, c'est que cette inversion des priorités, c'est pas juste un petit défaut de caractère. C'est perçu comme une trahison fondamentale de la constitution spirituelle de la nation.
Néanmoins, est-ce que la rigueur dans les détails n'est pas censée être une bonne chose pour maintenir la tradition?
Si, et d'ailleurs l'orateur ne rejette pas l'attention aux détails. Il dit littéralement que ces petites choses auraient dû être faites. Mais, et c'est le point crucial, sans omettre ce qu'il appelle le plus lourd de la loi.
La justice, la miséricorde.
Et la fidélité, ouais. Ces concepts y sont profondément enracinés dans les écrits des prophètes précédents, comme Michée ou Zacharie. C'est le cœur même de ce que l'institution était censée protéger et refléter, le caractère de Dieu.
Donc privilégier le rite extérieur au détriment de la justice humaine, c'est transformer une religion vivante en un cadavre.
C'est une très belle façon de le dire.
D'où la métaphore glaçante des tombeaux blanchis à la chaux. On apprend dans nos sources qu'au printemps, juste avant la grande fête de la Pâque, des milliers de pèlerins affluaient vers Jérusalem.
Ouais, la ville devait être noire de monde.
Et les autorités locales envoyaient des ouvriers recouvrir les tombes de peintures blanches super brillantes. Mais le but, c'était pas du tout l'esthétique, en fait.
Non, c'était un système d'avertissement sanitaire et spirituel.
Voilà. La loi stipulait que frôler un cadavre, ou même juste marcher par inadvertance sur une tombe, ça rendait la personne rituellement impure pendant 7 jours. Ce qui l'empêchait de participer à la Pâque.
Et en utilisant cette image précise, Jésus opère un retournement rhétorique qui est juste dévastateur. Il regarde l'élite religieuse, qui est perçue par tout le peuple comme le sommet de la sainteté, rayonnante et pure à l'extérieur.
Comme ces fameux tombeaux peints en blanc.
Exactement. Et il leur annonce qu'ils sont ces tombeaux. Ils ne sont pas des vecteurs de vie pour la communauté, mais des agents de contamination. Le peuple s'approche d'eux pour chercher Dieu et sans le savoir, au contact de leur hypocrisie et de leur avarice qui sont bien cachées, le peuple contracte une impureté morale mortelle.
L'intensité de la charge est indéniable. Traiter publiquement les figures d'autorité de race de vipères, d'hypocrites, de tombes remplies d'ossements, c'est une déclaration de guerre verbale.
C'est très violent, hein.
Et c'est là qu'il faut absolument clarifier un point majeur. C'est un point soulevé par l'analyse historique de nos documents. Pour quelqu'un qui lit ces textes aujourd'hui, hors de leur contexte culturel, il serait très facile de percevoir cette diatribe comme une attaque contre le judaïsme lui-même.
Ce qui a malheureusement été fait au cours des siècles avec des conséquences tragiques.
Exactement. Donc, lire cela comme une attaque contre un peuple entier, c'est faire un contresens total sur la nature du texte, non ?
Totalement. Nos sources sont catégoriques sur ce point et les preuves historiques abondent. On ne lit absolument pas un texte anti-juif ici. Pour comprendre à quoi ressemblait la véritable propagande anti-juive de l'Antiquité, il faut se tourner vers des auteurs gréco-romains.
Pomme Appion, par exemple.
Exactement, Appion. L'historien Joseph rapporte que ce gars diffusait des rumeurs absurdes et vraiment haineuses pour délégitimer le peuple juif.
Du genre patilant.
Il affirmait que les Juifs avaient été chassés d'Égypte à cause d'une épidémie de lèpre ou qu'ils adoraient secrètement une tête d'âne en or dans le sanctuaire de Jérusalem.
Ah ouais, des fake news complotistes de l'époque.
Voilà, ça c'est la vraie hostilité ethnique venant de l'extérieur.
Alors que le conflit qu'on observe dans notre texte, c'est plus comparable à une intense dispute de famille lors d'un repas de fête, en fait. C'est très différent d'une insulte lancée par un inconnu dans la rue.
C'est une excellente métaphore. C'est une querelle interne qui est profondément ancrée dans la tradition intellectuelle et prophétique de la nation elle-même. D'ailleurs, si on regarde les manuscrits de la Mer Morte, ceux découverts à Qumran, on voit que la secte juive qui les a rédigés utilisait un langage tout aussi apocalyptique, sinon pire, contre les autorités de Jérusalem.
Vraiment ? Ils disaient quoi ?
Ils considéraient l'établissement du temple comme, je cite, « l'assemblée de Satan ». Et ils se voyaient eux-mêmes comme les fils de la lumière luttant contre les fils des ténèbres.
Ah oui, ils n'y allaient pas de main morte.
Et bien avant ça, les prophètes de l'Ancien Testament, des gars comme Amos, Osée ou Jérémie, ils n'hésitaient pas à utiliser des mots d'une dureté effroyable pour dénoncer la corruption, l'exploitation des pauvres.
Même envers leur propre roi, c'est vrai.
Exactement. La rhétorique de Jésus, elle s'inscrit en plein dans cette lignée de prophètes qui aiment suffisamment leur peuple pour lui dire les vérités les plus insoutenables. L'analyse mentionne d'ailleurs un concept psychologique moderne très pertinent ici, la transférence.
Ah oui, cette idée que les foules transfèrent leur respect profond pour Dieu ou pour l'institution directement sur les épaules du leader humain qui occupe la fonction.
Précisément. Et quand un leader réalise qu'il bénéficie de cette confiance aveugle, la tentation de l'exploiter pour asseoir son pouvoir personnel ou pour s'enrichir, elle devient monumentale.
Donc, les reproches cinglants de ce texte, ça ne vient pas d'une haine aveugle, mais d'une sorte de rage protectrice.
C'est tout à fait ça. C'est la colère d'un berger qui voit des loups utiliser des vêtements de brebis pour dévorer le troupeau de l'intérieur.
C'est puissant. Et ce niveau d'abus spirituel systémique, ça engendre une fracture impossible à réparer avec de simples petites réformes. L'histoire nous montre qu'une telle corruption, ça mène souvent à un effondrement brutal.
Un point non-retour, ouais.
C'est ça. Et les sources mettent en évidence que ce discours culmine vraiment vers ce point de non-retour historique et tragique. Jésus trace une ligne sanglante à travers toute l'histoire de la nation. Il accuse cette génération de dirigeants d'être l'aboutissement de tous ceux qui ont persécuté la vérité, depuis l'assassinat d'Abel jusqu'à celui de Zacharie qui était tué entre le sanctuaire et l'autel.
Alors là, la mention de Zacharie, il faut savoir que ça déclenchait une résonance terrifiante dans l'esprit des auditeurs de l'époque. La littérature rabbinique rapporte une légende particulièrement viscérale concernant ce meurtre sacrilège.
Un meurtre commis dans l'enceinte la plus sacrée en plus.
Oui. Et la tradition voulait que le sang de Zacharie ait refusé d'être absorbé par le sol du temple. Au lieu de ça, il aurait continué à bouillonner sur les dalles de pierre, refusant de s'apaiser génération après génération.
Waouh ! C'est super glauque !
Très. La légende raconte même que lors de la conquête babylonienne, le capitaine Nebuzaradan, terrifié par ce phénomène surnaturel, aurait fait égorger des milliers de prêtres et d'érudits sur ce même sang.
Juste pour tenter de le calmer.
Oui, mais en vain. Ce n'est que lorsque la divinité fut implorée que le sang s'arrêta enfin de bouillir.
C'est un imaginaire d'une violence inouïe. Et évoquer cette légende, en fait, c'était dire à ces élites « L'horloge cosmique de la justice tourne et vous êtes sur le point de déclencher une catastrophe qui fera passer la conquête babylonienne pour un incident mineur. »
C'est le point de rupture totale. Et cette rupture, elle est actée par une complainte déchirante où l'orateur pleure sur Jérusalem. Il la compare à une mère poule qui a désespérément tenté de rassembler ses poussins sous ses ailes.
Pour les protéger d'un incendie imminent. Mais elle a fait face au refus obstiné des dirigeants.
Exactement. Et cet incendie symbolique, il allait s'abattre sur l'épicentre même de leur fierté nationale, le temple. D'ailleurs, en quittant l'enceinte, les disciples sont tellement impressionnés par l'architecture qu'ils tentent d'attirer l'attention de Jésus sur la majesté des bâtiments.
Ce qui amène la fameuse prophétie. Mais pour mesurer l'ampleur du choc, il faut qu'on réalise ce qu'était vraiment le temple d'Hérode. Les historiens soulignent que sa superficie et sa splendeur surpassaient même le célèbre temple d'Artémis à Éphèse.
Et on parle d'une des sept merveilles du monde antique, là.
Exact. Construit avec d'immenses blocs de pierre blanche, recouverts d'épaisses plaques d'or. Apparemment, il brillait sous le soleil de la Méditerranée comme une montagne enneigée.
Il semblait conçu pour durer jusqu'à la fin des temps.
C'est ce qui rend la réplique qui suit tellement pétrifiante. Jésus regarde cette merveille invincible, qui est le centre névralgique de l'économie, de la politique et de la foi de toute une nation, et il déclare froidement qu'il n'en restera pas pierre sur pierre.
Pour l'audience qui nous écoute, c'est comme si quelqu'un prédisait aujourd'hui que le Pentagone ou la Tour Eiffel allaient être rasés jusqu'à la dernière pierre, mais avec en plus une dimension de centre cosmique absolu.
C'est impensable. Mais comment une prophétie aussi cataclysmique a-t-elle pu se matérialiser politiquement? Je veux dire, on ne rase pas un édifice suisse de cette envergure sans un engrenage géopolitique fatal.
Eh bien, l'engrenage s'est mis en place très vite, en l'espace d'une seule génération. Le texte annonçait que tout cela arriverait à sept générations, ce qui correspond à peu près à 40 ans dans l'Antiquité.
Et ça s'est passé comme ça?
Oui. La mécanique du désastre donne totalement raison à l'analyse de la corruption qu'on vient d'explorer. Dans l'histoire biblique, la destruction du temple survient toujours lorsque la corruption atteint son apogée. Le peuple, qui était oppressé, privé de justice véritable par une élite compromise, il s'est radicalisé.
C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres.
Voilà. En l'an 606 de notre ère, la révolte éclate. Les factions patriotes prennent le contrôle de Jérusalem et elles transforment l'enceinte du temple en forteresse militaire. Joseph rapporte que ces factions se sont entre-déchirées allant jusqu'à massacrer les prêtres dans l'enceinte sacrée.
L'abomination suprême.
Oui, une profanation que beaucoup ont perçue comme le vrai point de rupture morale. Le drame, c'est que la quête de pouvoir du leadership a conduit à la destruction de ce qu'ils étaient censés protéger.
Donc c'est la corruption interne qui a appelé les Péromènes.
Absolument. L'Empire romain ne tolérait aucune rébellion de cette ampleur. Le futur empereur Titus a encerclé la ville. Et après un siège atroce, en l'an 70, les légions ont percé les défenses.
Et le temple a été détruit.
Malgré des ordres initiaux de le préserver, un soldat a jeté une torche à l'intérieur. Le feu a embrasé les boiseries, fait fondre l'or. L'or s'est infiltré dans les fissures des gigantesques blocs de pierre.
Et c'est là que la prophétie prend tout son sens matériel.
C'est ça. Pour récupérer cet or fondu, les soldats romains ont utilisé des leviers pour disloquer complètement les fondations. Pas une seule pierre n'est restée sur l'autre. Le système de l'establishment s'est effondré sur lui-même, engloutissant toute la nation avec lui.
C'est fou. Le voyage à travers ces sources, ça nous plonge vraiment dans les abysses de la nature humaine. On a commencé par sourire face à l'image presque burlesque d'un pharisien meurtri qui se cogne contre les murs par excès de vertu, pour terminer devant les cendres encore fumantes du plus grand sanctuaire de l'Antiquité.
C'est un contraste saisissant. Et ça révèle un fil conducteur implacable. Quand l'esthétique de la moralité remplace la pratique réelle de la justice, la structure finit toujours par s'effondrer sous le poids de sa propre hypocrisie.
C'est la leçon centrale. Et c'est d'une actualité brûlante pour quiconque détient aujourd'hui un pouvoir politique, institutionnel ou moral, peu importe.
Tout à fait. Ce n'est pas la grandeur des bâtiments ou le raffinement des règles qui protègent une société. C'est son adhésion viscérale à la miséricorde et à l'intégrité.
Mais au-delà de ça, ce qui me frappe le plus pour conclure notre exploration, c'est le dernier avertissement de ces textes. Après le choc de cette prédiction apocalyptique, les disciples, ils cherchent désespérément à obtenir une feuille de route.
C'est humain, ils veulent se rassurer.
Ils demandent, je cite, « quel sera le signe de la fin ?» Ils veulent un avertissement clair pour savoir à quel moment exact ils devront enfin se mettre en règle. Mais la réponse qu'ils reçoivent pulvérise complètement cette attente.
Parce que les sources précisent qu'il n'y aura pas de signaux d'alarme. L'événement final surviendra sans prévenir, comme un voleur dans la nuit.
Et ça, cette absence totale de signes, ça change tout le paradigme de l'éthique humaine.
Ah bah oui. Attendre un signe, ça signifie qu'il sera déjà trop tard.
Exactement. Si l'ultime conclusion de l'histoire, le règlement de compte final, ne prévient pas avant de frapper, l'attente passive n'est plus du tout une option. Ça devrait forcer chaque personne, leader ou citoyen ordinaire, à cesser de polir la façade en marbre de sa propre vie. La question que ces textes nous renvoient aujourd'hui est d'une exigence absolue.
Si la fin peut survenir à l'instant, allons-nous continuer à jouer la comédie de la vertu pour impressionner les autres? Ou allons-nous choisir de vivre la justice et la compassion là, tout de suite?
Avant qu'il ne soit trop tard. C'est une réflexion vertigineuse qui mérite, je pense, de résonner bien après que nous ayons fermé ces manuscrits aujourd'hui. Merci à tous d'avoir plongé avec nous dans cette fascinante histoire.